La Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques.
Atomic Mac, bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, la radio de sortir du nucléaire Drôme Ardèche. Pour cette première émission de l'année, nous vous souhaitons tous nos voeux anti-nucléaires et tous nos voeux de santé également à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Dominique Lalanne, qui est membre d'une association qui s'appelle Arme Atomique Stop. Et avant cela, eh bien, la parole à nos billettistes qui sont nombreux aujourd'hui et qui ont plein de choses à vous dire. Vas-y, Alain.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alain vaut le micro. Je suis heureux de vous retrouver en ce début d'année 2013. Et lueur d'espoir en 2013, le nucléaire à l'heure du doute. Ni l'accident de Three Mile Island en 79, ni Tchernobyl en 86 n'avaient délié les langues à ce point-là. Il a fallu la catastrophe nucléaire de Fukushima du 11 mars 2011 pour que les défenseurs de l'atome, même parmi les plus acharnés, se mettent à douter de l'excellence d'une énergie qu'ils ont longtemps défendue, les yeux fermés. Dernière en date à s'interroger, le directeur de l'agence belge de sécurité nucléaire, Willy de Rover, qui a déclaré à la veille de Noël, alors qu'il s'apprête à quitter ses fonctions en ce début 2013, « Nous devons nous demander, dit-il, si le risque nucléaire est encore acceptable. En toute honnêteté, si je considère ce risque, je choisirai d'autres formes d'énergie. » Ce n'est pas le seul revirement. En Suisse, autre pays avec la Belgique et l'Allemagne à avoir programmé la sortie du nucléaire, c'est le professeur Jacques Rognon, ancien président de l'Association des entreprises électriques suisses et ingénieurs nucléaires très réputé, qui expliquait, fin 2011, ne plus croire en l'atome. Trop cher, trop compliqué, trop de problèmes d'acceptation par la population, disait-il en substance, pointant les progrès d'ores et déjà réalisés par d'autres sources d'énergie, comme la géothermie profonde et l'éolien. En France, où le nucléaire fait encore l'objet d'un large consensus, le dogme de l'infaillibilité de l'atome n'est plus de mise, y compris chez certains ingénieurs X-Mines, artisans de son développement. Malgré les précautions prises, un accident nucléaire ne peut jamais être exclu, convenait en janvier 2012 André-Claude Lacoste, président de l'autorité de sûreté nucléaire, la fameuse ASN. L'un de ses pairs, Jacques Roussard, directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, indiquait que Fukushima obligeait à imaginer l'inimaginable. Alors, parole de repenti, choqué par une catastrophe dans un pays technologiquement avancé comme le Japon? Pas seulement. La question du coût de la filière ébranle elle aussi certaines certitudes. Les défenseurs du nucléaire ont toujours mis en avant le prix plus faible de cette énergie, mais cela sera de moins en moins vrai dans le futur. Les exigences nouvelles, liées à la sécurité et des difficultés à garantir un prix du kilowattheure à long terme, conduisent beaucoup d'experts à estimer que rester dans le nucléaire coûterait aussi cher que d'en sortir. Différentes études récentes montrent en effet que, quel que soit le choix énergétique pris, faire la transition énergétique basée sur le triptyque sobriété, efficacité, énergie renouvelable, ou continuer le système actuel basé sur le nucléaire, énergie fossile, c'est-à-dire gaz, pétrole, charbon, il faudra le même ordre de grandeur d'investissement autour de 500 milliards d'euros d'ici 2030 en France. Quant à la nouvelle génération de réacteurs nucléaires, celle de l'EPR, les dérapages de son coût vont jusqu'à poser la question de sa rentabilité et la possibilité de l'exporter. En France, tenez-vous bien, il est passé de 3,3 milliards d'euros en 2007 à 8,5 milliards en 2012, soit une augmentation de 257%. Le doute est tel que dans certains pays, Suisse, États-Unis, les jeunes ingénieurs hésitent désormais à intégrer la filière nucléaire, posant la question de la relève. La France vient de lancer un grand débat national sur la transition énergétique. Le nucléaire sera à l'ordre du jour, ne serait-ce que parce que François Hollande a décidé d'en réduire la part de 75% à 50% dans la production d'électricité d'ici à 2025. C'est l'occasion rêvée pour que toutes les questions soient posées, y compris la fermeture de Tricastin après celle de Fessenheim. Le nucléaire a longtemps été porté par des scientifiques de haut vol. Or, dans la théorie des sciences, aucun acquis n'est irréfutable. Nous exigerons donc que l'atome soit examiné avec la même rigueur que les autres énergies, à la fois sur le plan scientifique et le plan économique.
Georges, bien écoute, maintenant tu as tes deux billets à toi.
Oui, bonjour à vous tous. J'ai pensé fortement à cette nouvelle année 2013, à vous amener des informations inédites. Mais malheureusement, j'en ai trouvé et c'est toujours plus. Alors d'abord, l'expérience de Saint-Priest. Le 26-9-2012, en banlieue de Saint-Priest, dans le Rhône, une masse de 20 tonnes lâchée de 20 mètres au-dessus du sol, résultat un séisme de magnitude 4. Alors l'objectif, il s'agit d'une expérience menée par l'entreprise Ménard, filiale de Vinci, pour protéger une zone accueillant un immeuble sensible ou une centrale nucléaire, par la création d'un réseau de trous cylindriques formé par l'impact cylindrique répété d'une masse de 20 tonnes lâchée sur le terrain de la zone depuis une grue qui compacte la colonne de terre et modifie les propriétés mécaniques du sol. Le résultat, le trajet de l'onde a été modifié et les vibrations amorties de 30%. L'immeuble n'a pas été touché par la force du séisme. Maintenant, les expérimentateurs doivent apprendre à ajuster le diamètre et la hauteur des trous cylindriques à la configuration de chaque lieu. En résumé, pour éviter les dégâts sur les constructions des séismes, cette expérience a créé un séisme de force 4. Et par ce type de procédé, donc création d'un réseau de trous cylindriques, a modifié l'onde du séisme et amorti les vibrations de 30%. Donc à éviter que la construction soit impactée matériellement par ce séisme. Nous ne sommes pas informés des dégâts collatéraux causés par ce séisme force 4. En effet, je fais référence à l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, chimiste, et Lynn Margulis, microbiologiste, qui en 1974 reconnaît la planète Terre comme un être vivant et en démontre les mécanismes. Je pose donc la question, qu'en pense Gaïa? Qu'en pense la planète Terre?
Alors Georges, maintenant tu voulais nous parler des tempêtes solaires, si j'ai bien compris.
Voilà maintenant une vision un peu plus cosmique. Hein. Il s'agit des risques pour les installations nucléaires dues aux tempêtes solaires en 2013. D'après une enquête de Mike Adams de Natural News, nous risquons bien pire que Fukushima. Pour mémoire, la radioactivité produite à Fukushima est équivalente à 168 fois la radioactivité libérée par la bombe H en 1945 sur Hiroshima. Car le Soleil entre dans une période particulièrement active avec un pic en 2013. Une éruption solaire est la libération soudaine d'énergie par la surface du Soleil durant quelques minutes à quelques dizaines de minutes sous forme d'ondes électromagnétiques sur un large spectre, à savoir donc les ondes radio aux rayons gamma en passant par les rayons X et de particules de matière très énergétique, des protons relativistes essentiellement. En cas d'éruption solaire majeure, notez qu'il faut remonter 8000 ans en arrière pour retrouver l'intensité de l'activité solaire de nos 60 dernières années. Il est à craindre, d'après études de plusieurs gouvernements fédéraux, un blackout d'électricité, donc une panne d'électricité géante dans des régions du pays, car les courants géomagnétiques attirés par la tempête pourraient surcharger les transformateurs et les faire exploser. Ce ne sont pas seulement les centrales nucléaires qui peuvent griller, mais tout un réseau électrique, et aussi les lignes électriques et les câbles téléphoniques de longue distance et les circuits électroniques de 98% de nos automobiles. Au pire, c'est presque l'infrastructure de tout le réseau mondial qui peut être touchée, et pour un certain temps. Les radars, les communications par téléphone cellulaire et les GPS pourraient être dérangés par le bruit des ondes radio solaires. Les dégâts potentiels aux 900 satellites actuellement en orbite sont estimés à un coût entre 30 et 70 milliards de dollars. Ces tempêtes engendrent également de magnifiques aurores boréales rouges, vertes et pourpres sur Terre. Il ne faut pas oublier que nous savons que très peu de choses sur le Soleil. Voilà, en ce début d'année, tous mes vœux quand même.
Merci Georges. Céline, tu voulais nous dire également un petit mot de la cabine
Absolument. Donc, je vais vous parler un petit peu de la centrale de Saint-Alban, Saint-Maurice-l'Exil, qui est trop oubliée de la liste des centrales nucléaires de la région Rhône-Alpes. Cette centrale nucléaire donc, de Saint-Alban-Saint-Maurice-l'Exil se situe dans le département de l'Isère, sur la rive gauche du Rhône, à une quarantaine de kilomètres au sud de l'agglomération lyonnaise et à 60 kilomètres au nord de Valence. Elle compte deux réacteurs de 1300 MW, dont le refroidissement est assuré grâce aux eaux du Rhône, ce qui explique le fait qu'elle ne soit pas équipée de tours aéro-réfrigérantes. L'absence de ces hautes tours, généralement symbole des centrales nucléaires, rend la présence de cette centrale assez discrète dans le paysage, et de nombreux habitants de la région ignorent son existence. Elle se distingue pourtant à l'échelle nationale depuis 3 ans par le fait qu'elle est considérée comme la dernière en matière de protection de l'environnement et de sûreté nucléaire. L'association Vivre a publié sur son site internet vivreicienvironnement.org un dossier détaillé qui reprend l'ensemble des défauts observés sur cette centrale par l'autorité de sûreté nucléaire depuis de nombreuses années. Il mentionne notamment des défauts structurels, la vétusté ou corrosion de nombreux matériels, le contrôle peu satisfaisant des sous-traitants et des dysfonctionnements de logiciels. Également des défaillances sur les procédures à suivre en cas d'incident. Par ailleurs, l'ASN a mis en évidence un problème concernant la résistance aux tremblements de terre des ouvrages. En 2003, elle informait EDF de son désaccord sur l'estimation des risques liés au séisme retenu pour le dimensionnement des ouvrages. EDF a chiffré à 20 millions d'euros le coût des études et travaux nécessaires à une éventuelle prise en compte d'un risque sismique réévalué. Par la suite, l'ASN a revu ses exigences à la baisse et a effectué ses contrôles sur la base des dimensionnements établis par EDF. Elle maintient toutefois ses remarques sur la protection incendie qui n'est pas dimensionnée pour résister au séisme majoré de sécurité. L'association Vivre ainsi que d'autres associations membres de la commission locale d'information se battent pour que l'ASN impose à EDF l'ensemble des travaux nécessaires. Pour finir, je tiens à vous signaler que le plan particulier d'intervention, qui est un document qui prévoit les modalités d'alerte et d'organisation des services en cas d'accident, ce plan est établi pour cette centrale sur un périmètre de 10 km autour de la centrale. Dérisoire quand on sait qu'à Tchernobyl ou Fukushima, des dizaines de kilomètres ont été évacués autour de la centrale et qu'à Fukushima, par exemple, des contaminations ont été observées à plus de 80 km du lieu de la catastrophe. Mais peut-être serait-il trop inextricable et onéreux d'intégrer l'agglomération lyonnaise et ses nombreuses industries à ce plan d'intervention. Mais, concernant les insuffisances de préparation des actions à mener en cas d'accident, rassurons-nous, la centrale de Saint-Alban-Saint-Maurice-Nexil n'est peut-être pas la dernière.
siffle aussi. Le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le silbo-bombello. La Wawa escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero Bonifacio.
Eh bien, nous sommes avec Dominique Lalanne. Je ne sais pas s'il nous entend parce que nous sommes au téléphone. Dominique, bonjour.
Bonjour, je vous entends très bien.
Eh bien, écoute, c'est parfait. Dominique, du lundi 6 au jeudi 9 août 2012 à Paris, plus de 70 personnes ont participé à un jeûne d'interpellation pour l'abolition des armes nucléaires et le souvenir des victimes des bombardements nucléaires de Hiroshima et Nagasaki. Ces participants et participantes, d'ailleurs, à ce jeûne international, organisé par la Maison de Vigilance, le réseau Sortir du Nucléaire et le collectif Armes Nucléaires Stop, en partenariat avec la mairie de Paris, ont présenté leurs objectifs et les actions envisagées pour sensibiliser l'opinion publique à l'urgence du désarmement nucléaire. Enfin, le premier vendredi de chaque mois, les militants et militantes font le siège du ministère de la Défense. C'est là que nous sommes allés les retrouver vendredi 4 janvier 2013. Et avant de parler avec toi, Dominique, un petit aperçu des réactions de ces militants que nous avons pris sur place vendredi.
Je viens en fait parce que je suis accrochée à la lutte antinucléaire depuis 1984.
Non, c'est pas tout jeune.
Du temps de la maison de vigilance, qui était une vraie maison, une maison avec des murs et un toit, à maison organisée par, achetée et organisée par des non-violents, pour être à côté, aux alentours, tout proche, du PC atomique, qui était donc essentiellement là la force aéroportée de la France. Voilà. Donc, par la suite, alors dans cette maison de vigilance, il y avait donc des jeunes l'été, anniversaire Hiroshima-Nagasaki, et les grands pontes un petit peu de cette affaire, c'était Solange Fernex, députée vert européenne à l'époque, d'un certain temps, et puis Théodore Monod, qui venait surtout l'été, nous soutenir les jeunes. Voilà, et puis par la suite, nous avons instauré cette action en 2005, de venir le premier vendredi du mois, parce que quelques-uns d'entre nous sentions que justement la valeur, l'intérêt de la base aéroportée était en train de baisser et que nous on voulait s'intéresser à Paris, où était le PC exactement. Et donc on a découvert que c'était l'îlot Saint-Germain en sous-sol du ministère de la Défense. Et donc on a instauré cette action de premier vendredi du mois, chaque mois, et on s'y tient. En général, seulement, on ne le fait pas en août, parce que c'est proche du 6 au 9 août, et on a toujours un rassemblement.
6 au 9 août, c'est les anniversaires d'Hiroshima et Nagasaki, c'est ça.
Oui.
Les activités que je peux avoir à mon âge, j'ai presque 83 ans, ma présence ici aujourd'hui est l'engagement le plus important que je considère par rapport aux autres engagements que j'ai.
On ne parle quasiment plus de l'arme atomique maintenant. Vous voulez en reparler pour quelle raison exactement ?
Eh bien, pour qu'on supprime, qu'on décide de ne jamais plus utiliser les armes atomiques. Il y a déjà eu des accords pour ne pas employer les bombes, les mines, vous savez, explosives.
Bon, ouais.
Donc, il y a des mouvements qui aboutissent à des résultats. Je pense que parmi toutes les activités qui me sont proposées, de pouvoir contribuer par ma présence à une manifestation contre l'armement nucléaire, c'est l'engagement de citoyen le plus important que je peux avoir.
Là, je suis avec Claire qui a passé l'heure de midi à 13h de l'autre côté du boulevard Saint-Germain avec sa pancarte pour que les automobilistes la voient. Claire, le fait de venir comme ça, un vendredi par mois, le motif profond, c'est quoi ?
Le motif profond, c'est que je ne saisis pas qu'on ait encore des armes militaires, des armes nucléaires aujourd'hui. Je comprends pas. Et bon, je veux mettre mon petit grain de sable là-dedans, mais bon, je sais que c'est difficile.
Mais pour la population française, l'arme nucléaire, c'est un peu la sécurité, c'est la paix depuis 50 ans.
Pour certains, mais je suis frappée. Maintenant, je commence à faire un sondage, c'est-à-dire j'ai ma pancarte abolition des armes nucléaires. Je montre d'abord la pancarte. Et je fais signe aux gens avec le pouce en l'air. Ça veut dire, vous êtes d'accord avec ce que je montre, pouce en bas. Et je suis surprise moi-même de voir qu'il y a beaucoup plus de pouces en l'air que de pouces en bas. Ça veut dire que quand même, il y a plus de gens qui sont en faveur de l'abolition. Ce qui n'était pas mon hypothèse. Hein.
Alors, Dominique, vous êtes toujours là ?
Oui.
Oui, bon voilà, on a entendu un peu ces témoignages de militants vendredi devant le ministère de la Défense. Je rappelle, vous êtes ingénieur nucléaire, vous avez participé à l'élaboration du pamphlet récemment publié par Stéphane Hessel et Albert Jacquard, ce pamphlet qui s'intitule « Exiger un désarmement nucléaire total ». Vous écrivez dans de nombreuses publications, donnez des conférences et assistez à l'ONU aux assemblées du traité de non-prolifération. Et vous travaillez également comme expert à l'Observatoire des armements de Lyon. Donc voilà, beaucoup de casquettes. Qu'est-ce que c'est que Armes Nucléaires Stop déjà au départ ?
Au départ, c'est un collectif d'associations, c'est-à-dire c'est une vingtaine d'associations qui se sont regroupées parce qu'elles sont sensibles au problème du désarmement nucléaire et elles voulaient, sur cet aspect particulier, avoir des actions particulières, spécifiques, pour pousser la communauté internationale et notre pays également au désarmement nucléaire.
Et vous travaillez, donc là, ça regroupe un certain nombre d'associations. J'ai vu qu'il y avait dedans la maison de vigilance, par exemple. Qu'est-ce que c'est ?
La maison de vigilance, c'est, comme l'a dit tout à l'heure une militante, Marie-Claude, c'est une association qui s'est installée à Taverny, là où il y avait le PC des armes nucléaires tactiques aéroportées, qui est maintenant déplacé à Villacoublay. Donc Taverny n'a plus lieu d'être, mais la maison de vigilance est une des associations à but antinucléaire clair et non-violente. Il y a d'autres associations comme l'Union Pacifiste de France, comme le Réseau Sortir du Nucléaire, comme Pax Christi, il y a des associations confessionnelles non-violentes, il y a Europe Écologie Les Verts par exemple, il y a des associations politiques autres. Enfin au total ça fait une vingtaine d'associations qui toutes ont ce point commun d'exiger un désarmement nucléaire.
Donc en fait, oui, voilà, l'action que vous essayez de mener aujourd'hui, c'est de faire une pression, y compris sur le gouvernement, au moment où d'ailleurs ce gouvernement, et François Hollande s'était engagé à cela, avait décidé de lancer un livre blanc sur la défense. Et l'état de l'armement nucléaire en France, il est lequel actuellement ?
Alors, oui, il y a une sorte de grand écart qui est fait entre officiellement une volonté politique internationale d'éliminer l'arme nucléaire, et puis, dans les faits, la volonté des États nucléaires de conserver ces armes nucléaires. Et François Hollande, dans son projet de livre blanc, et également dans la loi de programmation militaire qui va être votée prochainement à l'Assemblée nationale, a dit clairement que pour lui, il n'était pas question d'envisager un désarmement nucléaire. On gardait tout l'armement nucléaire français tel quel, avec ses mêmes fonctions, sa force aéroportée, qui peut faire une frappe d'avertissement. Une frappe d'avertissement, c'est quand même 30 fois Hiroshima, c'est pas une bagatelle. Et puis ensuite, un sous-marin nucléaire en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en état d'alerte, qui a une capacité de frappe de 1000 Hiroshima. Donc, si vous voulez, on est dans une sorte de grand écart qui, à la fois, pour des raisons de sécurité, entre guillemets, puisque c'est ça l'argument officiel, conserve une arme nucléaire en permanence en état d'alerte, et officiellement le fait qu'on n'a pas d'ennemis à nos frontières, qu'on s'entend bien avec tout le monde, qu'on veut faire la paix internationale, etc. etc. Donc si vous voulez, la France est dans une situation complètement paradoxale et un peu caricaturale au niveau international, parce que avec 300 bombes nucléaires, menacer quelqu'un, c'est absurde, alors que les États-Unis ou la Russie en ont chacun 10 000 en état d'alerte, dont 2000 en état d'alerte d'ailleurs, que d'autres pays comme l'Inde, le Pakistan, l'Iran qui veut peut-être accéder aussi à l'arme nucléaire. Enfin,
Israël.
D'autres pays sont menaçants. La France, en rien, ne pourrait être menaçante et résoudre un quelconque conflit avec ses armes.
Oui, bien sûr. Oui, bon, rappelons aussi qu'Israël également, dans une zone de conflit,
a
également
l'arme nucléaire, effectivement.
Et cet armement nucléaire, c'est aussi un coût, j'imagine, puisque le gouvernement français doit mettre, je crois, c'est 20% du budget militaire que représente l'armement nucléaire aujourd'hui.
Oui, c'est un coût, mais disons que ça, c'est souvent argumenté par les officiels. C'est un coût qui est notre assurance vie et qui n'est pas très cher par rapport au fait qu'on pourrait disparaître de la planète. Mais enfin, ça nous ferait disparaître de la planète. Comme le dit le général Norlin, c'est pas une assurance vie, c'est une assurance décès. Ça a un coût, mais bon, à part pour les Anglais, par exemple, les Anglais se posent la question réellement d'abandonner l'arme nucléaire uniquement pour des raisons de coût. En fait, pour la France, ça coûte à peu près 4 milliards d'euros par an. 4 milliards d'euros sur un budget de 400 milliards, c'est pas énorme. Mais c'est quand même 4 milliards. Quand on recherche des milliards un peu partout, on peut se poser la question si c'est vraiment inutile, comme le dit le rapport du Sénat. Le rapport du Sénat est fantastique. Il dit c'est inutile, on le referait pas si on avait à le faire maintenant. Mais comme on a fait, comme on l'a, il faut le moderniser, il faut le garder. Ce qui est vraiment le paradoxe le plus total.
Oui, c'est une logique qui ressemble un peu à celle du nucléaire civil. D'ailleurs, y compris... Comme pour le nucléaire civil, on a l'impression que, y compris ce gouvernement, ne joue pas tellement la concertation ni même l'information. Jusqu'à maintenant, vous n'avez quasiment peu de contact avec le gouvernement et vous êtes relativement peu écouté.
Au niveau du nucléaire militaire, c'est pire qu'un refus de discussion. Au niveau du nucléaire civil, on peut dire qu'il y a des débuts de discussion qui sont parfois des leurres, mais... je veux dire, au niveau du nucléaire militaire, François Hollande a été clair, on ne discutera pas pour le livre blanc du nucléaire militaire. Point. Et voilà, c'est terminé. Récemment, on a rencontré la présidente de la commission défense de l'Assemblée nationale, Madame Patricia Adam, qui nous a dit, écoutez, le nucléaire militaire, non, on n'en discute pas. Je veux dire, ça fait partie des acquis, et puis point. Voilà, donc c'est terminé. Il n'y a pas de débat possible dans les années qui viennent sur le nucléaire militaire, c'est clair.
Ouais, Dominique, vous restez en ligne, on va passer une chanson qui va assez bien avec le débat, qui est d'ailleurs la chanson de générique Boris Vian, La bombe atomique.
Merci.
Et on vous retrouve juste après.
La Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
toujours sur Atomic Mac. Nous sommes en compagnie de Dominique Lalanne qui est au téléphone à Paris. Dominique, dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, je parlais de jeûne international qui avait eu lieu au mois d'août. On vient de discuter de l'absence de concertation, de débat citoyen autour de l'armement nucléaire. Quelles sont les actions en cours ou à venir de l'association Armes Nucléaires Stop que vous animez?
Les actions, c'est toujours des essais pour sensibiliser l'opinion publique à ce sujet-là. Donc, à la fois, il y a ces présences devant le ministère, à la fois, il y a ce jeûne du 6 au 9 août. Cette année, on voudrait donner plus d'ampleur aux jeunes du 6 au 9 août en ayant une grosse participation anglaise qui vienne à Paris. Et nous, en parallèle, on aurait une participation française dans un jeûne que les Anglais organisent dans leur site de sous-marins nucléaires, qui est leur base en Écosse, pour leur défense nucléaire. Et donc, on aura ce jeûne couplé anglais et français en même temps du 6 au 9 août. C'est pour nous l'occasion à la fois de provoquer les médias parce qu'on a des actions phares dans Paris, dans le genre de dying sous la tour Eiffel, dépôt de motions au ministère de la Défense, animation autour de Notre-Dame de Paris, autour du centre Beaubourg, etc., etc. Donc une grosse visibilité qu'on veut pour le public. Le mois d'août, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de Parisiens, mais il y a beaucoup de touristes et beaucoup d'étrangers, même de Français qui visitent Paris. Donc on a avec des banderoles une grosse visibilité. Et donc on fait aussi évidemment des conférences de presse aux journalistes pour les informer des différents points d'actualité sur le sujet. Donc en fait, notre problème, c'est comment est-ce qu'on peut développer un débat en France alors qu'il y a une omerta de la part de toutes les radios classiques dominantes sur et télévision. Un peu merci à votre radio de nous avoir invités, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on soit accepté à un micro.
Ben, la Drôme Ardèche est particulièrement sensibilisée au problème du nucléaire, mais on faisait un petit peu le tour du studio là, et nous on sait où sont les centrales, etc., mais très peu de gens savent où sont les bases militaires nucléaires françaises.
Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'espaces militaires français qui sont discrets. Hein, c'est sûr qu'il n'y a pas trop de publicité. Les espaces sur l'arme nucléaire les plus connus et qui sont quand même difficiles à cacher, c'est à Brest, l'arsenal où tous les sous-marins accostent et entretiennent leurs missiles et sont remis dans leur au niveau technique à point quand il faut les réparer. Donc là, si vous voulez, la base de Brest est très très connue, et c'est sûr que s'il y avait une guerre nucléaire, ça, les Brestois ne se rendent pas compte, mais ça serait les premiers touchés dans une guerre nucléaire. L'autre base importante, c'est sur la Méditerranée, à Istres, vers Toulon, où là, c'est la force aéroportée qui, ce sont des avions qui équipent éventuellement le porte-avions Charles de Gaulle pour transporter des armes nucléaires et puis avoir là une action d'avertissement, comme dit officiellement la doctrine, c'est-à-dire de frappe avant une intervention quelconque, de frappe nucléaire, même si c'est un pays non nucléaire et même si ce pays est menaçant pour des raisons non nucléaires. Jacques Chirac, il y a une dizaine d'années, avait dit que même pour des approvisionnements stratégiques, on pourrait imaginer une frappe nucléaire. Vous vous rendez compte, si jamais on a un problème de pétrole, comment on pourrait envoyer une bombe nucléaire sur le Moyen-Orient? Ça, c'est complètement surréaliste.
Oui, tout à fait. Une des questions que l'on se posait également, c'est et que vous posez vous d'ailleurs aussi, c'est deux dangers démocratiques. Le premier, c'est le nucléaire militaire. D'ailleurs, c'est lui qui est à la création du fait du nucléaire civil. C'est qu'il fallait produire du plutonium, et le nucléaire civil sert finalement à produire ce plutonium pour l'armée. Donc c'est le militaire entretient le civil qui lui-même entretient le militaire. Et puis l'autre problème, c'est les risques de terrorisme, d'accès à l'armement nucléaire par des gens ou des pays mal intentionnés. Vous avez un peu des données là sur le sujet. Il y a tout le débat sur l'Iran, bien sûr, mais est-ce qu'il y a une vraie possibilité d'éparpillement de cet armement nucléaire?
Il y a ce qu'on appelle la prolifération. Et ça, c'est le grave problème qu'affrontent les pays nucléaires actuels. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va limiter le nombre d'États sur la planète qui ont l'arme nucléaire? Actuellement, il y a 9 États qui ont sur la planète l'arme nucléaire, dont 5 qui ont officiellement presque le droit d'avoir l'arme nucléaire, puisqu'ils sont signataires du traité de non-prolifération, bien qu'ayant l'arme nucléaire. Et donc, la grave question que tout le monde essaye d'esquiver d'une certaine façon, c'est est-ce que c'est d'autres pays vont avoir l'arme nucléaire. Alors l'Iran, c'est un peu le passage en force pour voir si c'est l'inflation du nombre de pays. Parce que l'Iran a signé le traité de non-prolifération et l'Iran dit « je ne veux pas avoir l'arme nucléaire, je veux le nucléaire civil, mais je ne veux pas avoir l'arme nucléaire ». Et si l'Iran se mettait tout d'un coup à dire « je prends l'arme nucléaire », alors que des pays comme la France, par exemple, au début avaient dit « je ne veux pas avoir l'arme nucléaire, je fais que du nucléaire civil », et puis un jour, toc, on fait exploser une bombe, et voilà. Donc si l'Iran avait le même comportement que la France il y a une cinquantaine d'années, eh bien à ce moment-là, tous les pays au Moyen-Orient seraient concernés par aussi l'acquisition de l'arme nucléaire. L'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Égypte sont des pays qui envisagent un programme d'armes nucléaires militaires si jamais l'Iran devait en avoir. Donc on est peut-être au bord d'un changement complet dans l'histoire de l'humanité où tout le monde pourrait avoir l'arme nucléaire. Et le fait que des pays comme la France disent « moi je veux moderniser mes armes nucléaires pour assurer ma sécurité », c'est un argument qui va convaincre les autres qu'il faut aussi qu'ils aient des armes nucléaires pour assurer leur sécurité, entre guillemets. Donc on est dans une dynamique mondiale où actuellement on ne voit pas comment un processus d'élimination de l'arme nucléaire pourrait prendre naissance.
Oui, en gros, c'est ce que vous appelez à faire, c'est que les pays qui ont déjà la bombe aujourd'hui prennent l'exemple, donnent l'exemple et arrêtent d'eux-mêmes.
Voilà, ça serait ça la logique. À partir du moment où on dit qu'on veut éliminer l'arme nucléaire, ceux qui l'ont commencent par le faire eux-mêmes.
Voilà. J'ai une petite question avant que l'on vous quitte, qui vient du studio. Là aussi, c'est une arme atomique est-elle facile à réaliser ? C'est-à-dire, est-ce que des groupes terroristes, etc., pourraient utiliser du plutonium qui s'est perdu dans un coin, soit civil, soit militaire, et utiliser faire un attentat, par exemple, avec atomique ?
Oui, alors moi, là, c'est presque la question que vous posez aux physiciens nucléaires.
Voilà.
Voilà. Donc, l'arme nucléaire est très facile à faire à partir du moment où vous avez la matière fissile. À partir du moment où vous avez une vingtaine de kilos d'uranium-235 ou une dizaine de kilos de plutonium, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est d'avoir ces produits. Donc là, sur le marché mondial, comment est-ce que vous procurez les produits si vous êtes un groupe terroriste indépendant de tout ? La plupart du temps, ce qu'on peut imaginer comme cas catastrophique, ce serait que des groupes terroristes soient en cheville avec un État, comme l'Inde ou le Pakistan, par exemple. Et à ce moment-là, l'Inde et le Pakistan donneraient les kilos qui manquent, et puis après, les terroristes feraient leurs bombes. Mais une bombe nucléaire simple, comme Hiroshima ou Nagasaki, c'est une bombe où il suffit d'avoir la matière fissile. On fait deux moitiés de matière fissile, et avec de l'explosif classique, de la dynamite, on les met ensemble. Et au moment où ils sont ensemble, ils explosent, ils font une explosion nucléaire. Pour la bombe d'Hiroshima, par exemple, il n'y a eu aucun essai préalable. Ça a marché du premier coup.
Oui, effectivement.
Elle était à l'uranium. Bon, la bombe au plutonium de Nagasaki, il y a eu un essai avant pour voir si ça marchait aussi bien avec le plutonium qu'avec l'uranium. Mais c'est facile à faire. Le problème, c'est la matière fissile.
Bah écoute, Dominique, je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter un petit peu avec vous en Drôme et Ardèche. Je rappelle aussi que vous êtes présent sur la chaîne humaine qui va se tenir le 9 mars. Et si j'ai bien compris, l'association Armes Nucléaires Stop sera à côté aux environs du ministère de la Défense.
Voilà, nous invitons tout le monde autour du ministère de la Défense pour manifester leur opposition aux armes nucléaires.
Eh bien, je pense qu'il y aura de nombreux Drômois qui viendront vous rejoindre. Dominique, merci beaucoup et puis à bientôt. Je pense qu'on se reverra sinon à la radio, au moins sur le terrain, et je te souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
Et Pierrick, maintenant tu vas nous donner notre agenda puisqu'on vient de parler de la chaîne humaine. Continuons sur l'agenda.
Exactement. Alors tout d'abord, bonne année à tous, bonne santé, beaucoup de bonheur et de l'énergie. Il va en falloir compte tenu de toutes les actions qui sont programmées pour cette année. On va déjà commencer par le mois de janvier. Donc tout d'abord, il est prévu le samedi 12 janvier sur le marché en centre-ville de Valence à la Porte Neuve de 10h à 12h de vous faire la présentation de cette grande affiche de la carte des zones d'exclusion en cas d'accident nucléaire en Rhône-Alpes. Le but du jeu étant de discuter avec les passants et de leur proposer de poser des questions à leur médecin, à leur maire, à leur préfet, etc. Pour savoir comment réagir en cas de souci, en cas de problème, grave ou pas grave d'ailleurs. La question c'est quel est le plan B, quoi. Si ça marche pas, comment on fait ? Et simplement aborder la question de la sûreté sous cet angle. Voilà, il est également prévu le 16 janvier à l'espace Saint-Martin à 19h30 à Montélimar, une réunion de la commission Stop Tricastin que je vous invite à rejoindre. Du covoiturage sera organisé probablement au départ du parking CIM. Je vous invite à aller sur sdn2607.org pour avoir plus de détails. Est programmé le 19 et 20 janvier à Reims l'Assemblée Générale du réseau Sortir du Nucléaire. On ne manquera pas de vous faire un retour sur ce qui s'y est passé. Voilà. Ensuite, il y a également de programmer le 25 janvier le 6e pique-nique sur le rond-point des Auréats à partir de 19h. Donc n'hésitez pas à venir partager avec nous toutes les bonnes choses que vous apportez d'habitude à chaque fois. Le repas est tiré du sac, ça nous permet de sensibiliser les gens sur les gaspillages énergétiques qui sont liés à l'éclairage des ronds-points et à d'autres éclairages d'ailleurs. Dans les villes pour lutter contre cette surconsommation d'énergie. Il faut également que vous preniez vos tablettes pour vous renseigner sur ce qui vous intéresse le plus du 25 janvier au 4 février. Il est organisé les journées de l'écologie au quotidien en Drôme, du côté de Die, du côté de Cray. Je sais qu'il y a plusieurs animations de prévues, des projections, des conférences, etc., etc. Je vous invite donc à aller piocher dans les tablettes les moments les plus croustillants de ce point d'orgue annuel. Et puis le 28 janvier à 18h30 à la Frapna, il y a comme d'habitude la réunion mensuelle de l'association Sortir du Nucléaire en Drôme-Ardèche. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à cette occasion. Différents thèmes sont abordés, c'est disponible sur notre blog. Enfin, on va prendre un petit peu d'avance, je vais vous parler du mois de février. Le 23 février 2013 à La Voulte-sur-Rhône est organisé à l'initiative de la commission Réaction en chaîne humaine un grand festi-chaîne, donc une animation festive, un concert de soutien plus exactement, pour arriver à avoir un maximum de participants à la grande chaîne du 9 mars. Donc ce concert verra apparaître les Becs Bienzen, d'abord, qui fait de la chanson française, et Batlik, des groupes qui sont relativement connus. Si vous ne les connaissez pas, ça vous fait l'occasion de les découvrir. Vous pouvez avoir plus d'informations et des réservations sur le site chainhumaine.fr. Donc n'hésitez pas à vous connecter pour en avoir plus. Et enfin, je vous rappelle que si vous avez des questions à poser en matière de nucléaire, toutes les questions que vous n'auriez jamais osé poser, vous pouvez nous les poser en téléphonant à notre répondeur gratuit au 0805 696 758. Nous aurons une émission programmée probablement au printemps pour répondre à toutes les questions que les gens se posent. Que vous ayez de 7 à 77 ans, il n'y a aucun souci, tout le monde est le bienvenu. Donc j'insiste, 0805 696 758, numéro gratuit, je vous le rappelle. Nous avons pu entendre aujourd'hui Silbo, une chanson de Méloche, puis une chanson de Boris Vian, La Java des bombes atomiques. Et tout de suite, nous allons continuer avec la chanson Les Centrales de Castellémis. Merci à vous et bonne année.
Et cette émission a été préparée, organisée par Pierrick, Georges, Alain, Céline et Dominique. Céline étant à la technique, Céline à la musique.
Un train ça peut dérailler. Sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Le biscotoli, 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 biscotoli. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, biscotoli. Un câble, ça peut casser. Et par accident, une voiture peut déraper. Par accident, un incendie se déclare. Pas au centrale.
c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Piscotel dip, piscotel dip, piscotel dip, piscotel dip, piscotel dip, piscotel dip, piscotel dip. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, piscotel dip. Un tunnel peut s'effondrer, une piste s'écrouler, un ingénieur mal calculé. Un pétrolier peut s'échouer, une plateforme polluée et goudronner un océan. Le Titanic a coulé, le Tupolev est tombé et le Zeppelin a brûlé.